Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume, en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien, à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Je me trouve si chanceuse de pouvoir faire ce que je fais. Ça m'amène à faire des rencontres riches et j'espère à vous faire du bien aussi. Mon invité d'aujourd'hui, je l'ai entendu pour la toute première fois à la radio de Radio-Canada. Je l'écoutais et j'étais suspendue à ses lèvres autant par ses propos que par sa façon chaleureuse de communiquer. Je l'ai tout de suite contacté et il a accepté mon invitation. Stéphane Gagnon est psychologue. Avec lui aujourd'hui, nous discutons des rouages intérieurs du déconfinement, de l'importance des arts pour l'équilibre mental, de la thérapie par avatar et du souhait de rendre accessible et universelle la psychothérapie. Nous aurions pu continuer à jaser de bien d'autres sujets encore bien longtemps. Stéphane Gagnon est titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'Université de Montréal. À l'emploi du CIUS de l'Est de l'île de Montréal depuis 2003, il travaille comme psychologue auprès d'une clientèle aux prises avec un trouble mental grave, notamment au sein du programme régional de traitement et réadaptation intensive. De 1997 à 2003, il a travaillé au sein d'un organisme communautaire offrant un programme de réinsertion sociale pour une clientèle en provenance des pénitenciers fédéraux. Depuis 2011, il coordonne l'équipe Pivot, un processus de consultation interdisciplinaire en soutien aux équipes médicales et professionnelles confrontées à des situations cliniques complexes. En collaboration avec le Centre de recherche et la Direction santé mentale, dépendance et itinérance, il collabore comme psychologue clinicien au projet de recherche de thérapie Avatar, une approche émergente pour le traitement des hallucinations auditives. Stéphane Gagnon est également superviseur de stage en psychologie et contribue à la supervision en psychothérapie de résidents en psychiatrie. Allô Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bien, ça me fait grand plaisir.
J'aimerais ça qu'on commence, que tu nous parles de la fin du confinement, de la COVID. Je sais que j'ai vu sur Internet que tu avais fait une petite capsule vidéo là-dessus. Tu en as fait plusieurs autres, dont une là-dessus. Je vais la mettre en lien d'ailleurs sur la page pour que les gens puissent aller la consulter. Comment on fait ça retourner à la normale, à supposer que c'est ça qu'on veut?
Mais déjà, dans la question, il y a quelque chose d'intéressant. Retourner à la normale, comme si ce qu'on vivait avant était la norme. C'était notre norme, on était habitués effectivement à ça. Puis bon, c'est un peu un cliché de dire que c'était un grand bouleversement, on n'était pas prêt à ça, mais on l'a vraiment vécu comme une grande perturbation, cette pandémie-là. Si bien que ça nous a pris beaucoup d'énergie pour s'adapter. D'abord, pour comprendre dans quoi on était. Je pense qu'on a assez rapidement compris que ça durerait quand même longtemps. On a appris durant cette année-là aussi des nouvelles choses. On a pu avoir peur des contacts sociaux parce que notre cerveau a enregistré que être proche des gens, ça pouvait équivaloir à un danger. En fait, souvent, j'arrive à tout ça pour comprendre comment on se déconfine. Il faut voir comment on s'est confiné. On a aussi été forcé d'arrêter durant cette année-là des trains de vie qui parfois étaient quand même assez effrénés. Et on rêve toujours de pouvoir s'arrêter quand on va trop vite, mais on n'y arrive pas nécessairement. Là, la pandémie nous y a contraints. À partir du moment où on s'arrête, on constate aussi des choses dans notre vie. Donc, il y en a pour qui ça a été très difficile d'être confiné. Je pense notamment aux gens qui sont très seuls. En tout cas, j'ai croisé beaucoup de gens dans ma pratique là, pour qui le confinement a été vraiment difficile parce qu'ils ont perdu beaucoup de facteurs de protection sociaux. Mais il y en a d'autres aussi pour qui ça leur a permis de constater que, oh, j'étais dans un train à grande vitesse, je ne sais pas si je vais vouloir nécessairement rembarquer dans ce train-là. Alors, comment est-ce qu'on se déconfine? Ben, je vois comme deux volets. Il va falloir d'abord réapprendre la proximité sociale, chose qu'on avait pris pour acquise toute notre vie. Là, moi, j'ai appris qu'être proche là, de plus de 2 mètres, là, à moins de 2 mètres, c'est-à-dire de quelqu'un, qu'il y avait un risque. Donc là, quand on va me dire, ben, c'est correct, Stéphane, maintenant, tu peux t'approcher des gens, je pense qu'il va y avoir une certaine appréhension, même si on en a le désir. C'est un peu ça là, qui est intéressant de voir dans le déconfinement, c'est que deux grands moteurs de motivation dans la vie, la peur puis le désir. Puis parfois, il y a quelque chose qui écrase l'un, parfois qui écrase l'autre. Alors, il y a ce volet-là, je pense, de réapprendre que, OK, on peut maintenant être proche. Maintenant, est-ce qu'on veut réembarquer dans ce qu'on était dans notre vie avant? Parce qu'on s'est adapté, hein. Faut comprendre que c'était difficile, mais on s'est adapté. On a modifié notre façon de fonctionner, nos relations, et on s'est adapté. Et là, le déconfinement, qui peut sonner comme étant la joie, ben, c'est aussi une nouvelle adaptation, encore une fois. Donc, ça demande de la nouveauté. Nouveauté égale toujours stress. Donc, il va falloir y aller, je pense, progressivement, c'est-à-dire au niveau des contacts sociaux, à recommencer tranquillement à pouvoir s'approcher les uns des autres lorsque ça sera indiqué. Mais aussi dans notre vie, de faire des choix, de dire, est-ce que, sais-tu, les rencontres que je faisais tous les dimanches avec telle et telle personne, ben, ça ne me tente pas de recommencer à tous les dimanches. Puis, il va y avoir aussi des choix à faire. Donc, comment on se déconfine? En fait, on va pouvoir en parler dans 3 ans. Ça va être plus facile de dire comment on s'est déconfiné. Parce que on s'est jamais déconfiné comme on s'était jamais confiné. Pas de notre vivant à nous, là. Donc, quand on s'y projette, je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a aller progressivement au niveau des contacts sociaux pour se réapprivoiser. Probablement que certaines personnes vont se sauter dans les bras, puis ça va être bien correct, mais certains vont être plus craintifs. Puis peut-être aussi dire, ben écoute, peut-être que je ne veux pas nécessairement reprendre là où j'étais avant, parce que s'il y a un côté, disons, positif à une pandémie qu'on n'a pas choisi, ben c'est peut-être de dire, ben il y a peut-être des aspects dans ma vie d'avant que je ne veux pas nécessairement reprendre de la même manière, puis que je vais orienter différemment pour la suite.
Tu as parlé de la peur. La peur, elle s'est installée très rapidement en début de pandémie. L'autre devenait l'ennemi potentiel qui pouvait nous transférer la COVID. Est-ce que ça s'installe rapidement, la peur? Est-ce que ça se désinstalle aussi rapidement?
Je voyais venir la question. C'est différent. Hein? On peut être traumatisé très rapidement dans la vie. Quelque chose peut nous faire peur. Là. C'est quelque chose de très saillant. Et la peur s'installe d'un coup sec. Puis c'est plus long et progressif de désinstaller la peur que d'installer la peur. Si vous vivez une situation extrêmement intense, très effrayante, votre système nerveux va se mettre en action, en activité de façon très, très forte, et ça va être assez long en l'exposant progressivement, c'est ce qu'on fait en psychologie, là, à se déconditionner de cet apprentissage-là qui a été très, très intense. Donc, je pense que autant ça a pris du temps à s'adapter, autant qu'on a appris rapidement que l'autre était un danger, là, il va falloir se donner du temps pour s'adapter à la nouveauté qu'est le déconfinement, mais aussi comprendre que la peur, ben ça prend un certain temps, disons, avant de s'apprivoiser, puis de restaurer la confiance.
Dans la capsule vidéo dont je faisais référence, tu compares l'analogie avec un coureur.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. En fait, on a fait plusieurs capsules vidéo, puis il y a eu, en fait, je pense que j'ai parlé 3 fois du marathon, fait qu'il faut croire que c'est la métaphore qui m'inspire le plus, là. Dans la première capsule, dans celle du milieu puis celle de la fin. Ça se compare à un marathon et pas, je précise, c'est-à-dire que rapidement, au début, on a compris que ça allait être long. Donc ça, je pense que là-dessus, il fallait s'armer de patience. Au début, on s'adapte rapidement à un état de crise aiguë. Hein. Quand on a un stress aigu, on est bon pour s'adapter rapidement, mais on est bon pour s'épuiser rapidement aussi. Fait que c'est là qu'il fallait beaucoup se donner, je pense, en début de pandémie, des façons de pouvoir s'adapter au long cours. C'est ça l'idée du marathon, hein. C'est que tu peux pas prendre un pace que tu vas faire en 5 km sur 42 km. Là où c'est différent du marathon, c'est qu'un marathon, bon ben, je le disais dans une de mes capsules, c'est un choix qu'on fait de faire un marathon. On s'entraîne longtemps pour faire un marathon. Puis même si c'est très long, ça dure 42,2 km. Donc on sait exactement quand est-ce que ça va finir. Fait qu'on peut gérer notre énergie. Ça n'a pas été le cas de la pandémie. De la pandémie, on a compris que ça allait être long. Mais on s'est fait dire encore un petit bout. Là, tu arrives au prochain tournant, tu penses que tu es rendu au bout de ta course. Non, 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 il y a encore un 5 km à faire. Découragez-vous pas, il en reste 3. Ah, finalement, peut-être 8. Et là, ça devient difficile parce qu'on est dans l'incertitude chronique à ce moment-là de se dire, ben, coudonc, ça va-tu durer 1 an, 2 ans, 3 ans? Donc, l'analogie du marathon, c'est de dire, ça va être très long, faut trouver une façon de réguler son stress, sa vie, de s'adapter, parce que c'est pas juste temporaire, c'est temporaire au long cours, mais c'est pas une question de semaine, c'est une question de mois, voire plus d'un an. Puis après ça, ben, de se dire, ben, OK, comment est-ce que je m'adapte à une situation qui, je sais pas exactement quand est-ce que ça va finir. Donc, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est plus qu'un marathon. C'est un marathon avec un effet de surprise sur la durée.
Tu parlais aussi de l'analogie avec la blessure. Quand tu as l'habitude de t'entraîner et tu as une grosse blessure, quand tu recommences après, tu y vas un peu plus mollo.
C'est ça. Ben, en fait, ça c'est intéressant aussi. Si on prend ça d'un point de vue personnel dans la vie, quand il nous arrive quelque chose de difficile, là, un épuisement, une dépression ou quoi que ce soit, les premiers temps, là, on voudrait revenir là où on était avant. C'est-à-dire qu'on a cette impression-là qu'avant d'être déprimé, ça, c'était mieux. Mais évidemment, c'était mieux avant d'être épuisé, etc. Et longtemps, on cherche à revenir exactement où on était avant. À un moment donné, on finit par comprendre qu'à force de vouloir revenir où on était avant, c'est cet avant-là qui nous a amené précisément là. Collectivement, je pense que c'est un peu la même chose par rapport à la pandémie. Là, j'y vois vraiment d'un point de vue plus collectif, c'est-à-dire que tout allait bien et tout d'un coup, tout va mal, donc on veut revenir avant parce que tout allait bien. En même temps, on a réussi quand même à contaminer la planète en quelques semaines. C'est quand même fabuleux, là. Donc, collectivement, j'espère qu'on va avoir la capacité de faire un peu le même cheminement qu'on fait individuellement, de dire, coudonc, ce qui était avant, c'était-tu si parfait que ça? Y a-tu matière à ce qu'on profite de l'occasion de s'être arrêté pour avoir un paquet de trucs sur l'environnement, l'économie, etc.? Bon, ça, c'est tout un champ, mais je pense que collectivement, il y a toujours un peu l'équivalent de ce qu'on a dans notre vie personnelle. On fonce, on continue, on y va de la manière qu'on connaît jusqu'à ce qu'à un moment donné, notre corps nous dit « ça marche plus ». Puis là, ben là, on peut bien dire « on va mettre de la glace, puis on va mettre de l'ibuprofène, on va continuer à courir ». À un moment donné, des fois, il faut faire comme « OK, là, je m'arrête, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour m'entraîner différemment, pour compenser différemment, etc. » Donc, effectivement, il y a plein de métaphores qui nous sont utiles, puis les métaphores, souvent, c'est utile pour illustrer des affaires qui sont assez difficile à résumer en mots, tu sais, fait que quand on dit qu'une image vaut mille mots, des fois c'est un peu ça. Hein?
Ouais, donc tout à fait. Est-ce que d'après toi, la pandémie, la COVID a amené un genre de polarisation sociale? Parce qu'il y a les pro-vaccins, il y a les anti-vaccins, il y a ceux qui pensent que le gouvernement est allé beaucoup trop loin. De l'autre côté, ils pensent que c'était bien correct tout ça.
Ben, je pense que oui, ben force est de constater. Hein. Je veux dire, on l'a vu là, ça a galvanisé les positions plus radicales. Puis ça, là-dessus, on n'est pas tous égaux non plus dans la manière qu'on gère notre stress, dans notre capacité à s'adapter. Il faut comprendre quand je dis qu'on n'est pas tous égaux, c'est une personne donnée dans son contexte. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui la pandémie est arrivée à un moment de leur vie où est-ce que tout allait bien, etc. On a des bons facteurs de protection. On arrive quand même à ce moment-là, tu sais, à mieux réguler tout ça. Il y en a d'autres pour qui étaient dans des situations précaires. Donc, quand tu arrives à un choc comme ça, où est-ce que là, tu perds peut-être ton emploi, où est-ce que là, tu te ramasses dans une situation, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Donc, à quelque part, on a tous envie de penser que tout d'un coup, tout ça serait faux, tu sais. Tout d'un coup, que rien de ça ne serait vrai, etc. On peut penser, en tout cas, qu'il y a des gens pour qui le déni est devenu un mécanisme d'adaptation, qui est un mécanisme d'adaptation qui est pas très sain à long terme. Parce que quand on reste dans la phase de déni, on s'adapte pas. On est en mode lutte, on n'accepte pas. On est en mode j'y crois pas. C'est comme si vous faisiez un deuil d'une personne puis vous restez constamment dans la phase de déni. Vous allez chercher un coupable à l'extérieur, vous allez dire ceci n'est pas vrai, puis on n'arrive pas à passer à l'autre phase qui est celle où est-ce que là on accepte une réalité très difficile, très brutale pour certaines personnes, mais qui nous permet après ça de faire le deuil de ce qu'on connaissait avant pour progresser vers autre chose. Mais ça, on le constate, ça a polarisé. Je voyais des gens qui expliquaient comment c'est des contextes aussi, où est-ce que des fois des leaders plus, disons, plus radicaux peuvent prendre le pouvoir aussi, parce que les gens qui ont de la misère à s'adapter, bien, ils cherchent à s'accrocher à une certitude, hein. L'intolérance à l'incertitude, c'est ce qui nous rend anxieux. S'accrocher à des convictions, à des certitudes, ça peut paraître rassurant, mais généralement, ça entretient aussi l'anxiété. Puis, dans le contexte social, pour revenir à la question. C'est clair que ça a polarisé. J'espère, par exemple, que quand ça va se déconfiner, il va peut-être avoir un petit peu de tumulte, mais on va probablement être capable de se réadapter à tout ça. Là.
C'est intéressant ce que tu racontes. J'avais jamais réfléchi à ça comme ça. C'est un mécanisme de défense d'une certaine façon.
Exactement. Face à l'angoisse, là, quand les choses nous apparaissent surréalistes, que la réalité est trop forte pour être acceptée, bien, notre cerveau est capable de dénier la chose. Il est capable de dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non seulement c'est pas vrai, mais tu fais partie de ceux qui ont compris que c'était pas vrai. Donc, un peu le sentiment d'élitisme. Je fais certains parallèles, mais faut nuancer quand même, mais qu'on voyait dans certaines sectes, où est-ce qu'il y a des gens très intelligents, là, qui avaient des carrières, le problème était pas là. Ça ramassait dans des zones de vulnérabilité émotionnelle qui fait qu'à un moment donné, la conviction devient le rempart de l'incertitude puis de l'angoisse. Puis on se réfugie dans la conviction et on se met à agir dans le sens de la conviction. Puis plus on agit dans le sens de la conviction, plus on apaise notre anxiété et là, ça finit par renforcer cette conviction-là, puis le clivage aussi qui s'installe avec les autres.
Il y a une grosse projection aussi qui s'installe parce que la personne qui est là-dedans, qui est dans la peur, l'anxiété, qui est dans son mécanisme de défense, qui n'y croit pas, elle projette sur l'autre personne que c'est l'autre qui n'a rien compris.
Tout à fait, parce que ça devient très menaçant d'avoir quelqu'un de nuancé devant soi quand on met toute notre énergie pour se remplir de convictions. On cherche des preuves, là, on a des biais de confirmation, on va aller chercher l'information qui va aller dans le sens de confirmer notre hypothèse. Donc, on finit par avoir une vision un peu tunnel. Et tous ceux qui arrivent avec une vision nuancée, j'ai toujours dit que l'intelligence, le doute est un signe d'intelligence parce qu'elle est capable de voir qu'il y a plusieurs explications, différentes alternatives, différentes hypothèses. C'est l'expression même de notre jugement. Mais des fois, notre jugement est obscurci pour différents facteurs. Puis c'est là où est-ce que j'essaie de nuancer la chose, que je veux pas condamner non plus ces gens-là parce qu'il y a des personnes qui s'amarrent dans des situations de vie très... Où est-ce que la capacité à s'adapter à quelque chose de très fort, de très intense, de trop perturbant, devient tel que ben, c'est des mécanismes comme ceux-là qui embarquent. Fait que, ouais, c'est ça. Devant la peur, notre cerveau a toutes sortes de façons de réagir.
J'aimerais ça que tu nous parles des enfants maintenant face à la pandémie. Bon, c'est sûr qu'à 7 ans, 8 ans, c'est pas l'idéal de passer ces journées en classe avec un masque. Bon, ça, c'est fini, heureusement, avec l'arrivée de la chaleur.
Très récemment.
Est-ce que les enfants, mettons, d'âge primaire ou jeune secondaire, vont garder des traces de ça ou sont assez résilients puis vont tout oublier?
Je ne suis pas un spécialiste de l'enfance, mais j'ai regardé un petit peu ce qui s'était écrit à ce sujet-là. Je pense qu'on a tous eu ces inquiétudes-là, notamment chez les très jeunes enfants. Ça, chez les pédiatres, on fait plusieurs sorties médiatiques là-dessus, hein, par rapport aux très jeunes enfants qui ont besoin, justement, de l'effet miroir du visage pour apprendre la parole, pour apprendre la reconnaissance émotionnelle. Donc ça, je pense que il y a eu une bonne écoute, là, au niveau de la santé publique par rapport aux très jeunes enfants. Les inquiétudes qu'ont les gens par rapport aux enfants d'âge primaire, ce que j'ai pu lire là-dessus, c'est que les spécialistes n'étaient pas trop inquiets par rapport à la capacité de résilience. Les enfants ont une flexibilité cognitive incroyable et leur capacité à s'adapter généralement, faut vraiment pas la sous-estimer. Donc moi, je suis plutôt confiant au niveau, on parlait des enfants de 7 à 11 ans. Comme je dis, je suis pas un spécialiste de la littérature sur le sujet, mais ce que j'ai pu regarder et ce que je constate autour de moi, ça m'apparaît quand même. Donc le port du masque, je pense qu'ils se sont adaptés puis ils vont s'adapter au reste. Mais ça m'amène à mentionner l'effet que ça a chez les adolescents, par exemple. Ça, je pense que pour eux, ça a été beaucoup plus brutal. Parce que rendu à l'adolescence, on sait à quel point l'identité se consolide, les rapports sociaux, les contacts sociaux, le rapport à l'autre, c'est au cœur du développement.
Les gangs d'amis.
Ah, les gangs d'amis, je veux dire, c'est beaucoup plus qu'aller à l'école, là, c'est plus que des maths du français et de l'histoire. Là. C'est la socialisation, c'est devenir tranquillement un individu adulte, etc. Et eux, je pense, certains, encore une fois, ont des bons facteurs qui les prédisposent à s'adapter plus facilement, mais pour d'autres, ça, je suis inquiet par rapport au décrochage scolaire. J'ai vu des gens, tu sais, pour qui l'adolescent, le sport était ce qui les tenait. Là, ils n'ont plus de sport. Donc là, l'école commence à être moins motivante. Donc, je pense que pour les adolescents, c'est, à mon avis, une des strates, j'ai pas le meilleur mot, de la population qui risque d'en avoir et peut-être éprouver le plus. Évidemment, il y a des facteurs individuels chez des adultes pour qui ça a été catastrophique, qui ont perdu leur emploi, leur carrière, de mon côté, on s'entend, mais si on voit en termes de groupe d'âge, je trouve les adolescents qui sont aussi très résilients, qui sont aussi très intenses, puis qui vivent les choses très intensément, ben, je pense que c'est un moment de leur développement qui est peut-être plus sensible.
Oui, probablement. Puis aussi, probablement que l'état du parent ou des parents a une influence aussi sur comment l'ado a pu gérer ou ne pas gérer la crise.
Clairement, clairement. Puis si on vient au masque pour un jeune enfant, si on explique à notre enfant pourquoi on porte le masque, ça sera pour toute notre vie, qu'il y a des bonnes raisons à le faire, ben, tu sais, je pense qu'un enfant va s'y adapter. Si on lui présente ça comme étant catastrophique, qu'il entend parler ses parents comme quoi ça n'a pas de bon sens de porter le masque, etc. Donc, tout est effectivement lié au contexte dans lequel, affectif, relationnel, social, dans lequel on est. Et pour les adolescents, je pense que c'est pareil. Si tu vois tes parents en détresse, je sais pas, leur entreprise est en train de faire faillite, qu'un des deux a perdu son emploi, le niveau de tension augmente dans la famille. Donc, tout est toujours une balance entre les facteurs de protection puis les facteurs de risque.
Un des facteurs de résilience qui aide l'humain, en tout cas moi, ça m'aide quand c'est plus difficile, c'est l'art.
Tout à fait. En fait, l'art a cette espèce de faculté-là de transformer parfois des émotions qui sont difficiles ou nos angoisses en beauté, donc en poésie, en musique, en image, en peinture, en dessin, peu importe. Puis c'est moi personnellement dans ma vie aussi, c'est quelque chose que j'ai toujours fait de la musique. Quand je suis bien tendu, là, puis que la méditation et que toutes mes belles stratégies de psychologue ont leurs limites, là, je m'assois avec ma guitare, je commence des cours de bataillie, puis pendant ce moment-là, je suis pleinement dans le moment présent. Ce fameux moment présent-là qu'on galvaude beaucoup, c'est en s'y exerçant qu'on le vit. Puis l'art a cette faculté-là de nous ancrer, je trouve, de nous ancrer dans le moment présent, où est-ce que l'émotion peut passer par comme un autre vecteur que celui du cerveau qui finit toujours par filtrer les affaires, rationaliser les affaires, donc d'intellectualiser les choses. Donc l'art a vraiment cette faculté-là. On le voit beaucoup dans la pratique. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes que je rencontre dans ma pratique pour qui l'art est une des choses qui vraiment les aide à réguler leur stress, leurs angoisses, leurs émotions. C'est quelque chose qu'on constate beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes aussi d'art-thérapie qui ont été développés en santé mentale. Mais au-delà de ça, sans faire partie d'un programme comme celui-là, je pense que l'art, généralement, fait du bien. Évidemment, c'est intéressant aussi quand on peut le faire avec d'autres personnes, parce que là, ça vient potentialiser les effets de l'art. Je voyais une étude qui passait, je pense que c'était l'année passée, où est-ce qu'on montrait comment que la musique a un effet positif sur le stress. Mais quand on combine écouter de la musique avec des gens qu'on aime bien, là, ça vient se potentialiser l'effet. Donc, l'effet du support social combiné avec l'effet de primaire de l'art, si on peut dire. Donc, ça, c'est peut-être le côté qui a été plus dur durant la pandémie, entre autres. On a fait de l'art tout seul ou virtuellement, mais on a perdu un peu le côté se rassembler, aller voir une pièce de théâtre, aller voir un spectacle. Chose que j'ai très hâte d'ailleurs. Ça fait partie des choses qui m'ont manqué le plus, bien honnêtement. Il n'y a pas tant de choses que ça qui m'ont manqué de l'avant-pandémie, à part voir mes proches. Là. Mais ça, là, aller voir un spectacle, le côté d'humanité commune où est-ce que tout le monde se rassemble puis vibre à l'unisson, il y a quelque chose de particulier. On le dit un peu walkie pour les fans de ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Le Canadien qui va bien, ça va dans les demi-finales.
Heureusement,
c'est un effet collectif.
Là, tu parles à un ancien fan des Nordiques. Donc, c'est là qu'on voit que le Canadien peut bien réussir, mais que ça n'a pas nécessairement le même effet sur tout le monde. Mais ça, c'est une parenthèse fermée. Mais oui, ça a la même fonction. C'est-à-dire que tout le monde... Ce sont des vecteurs qui viennent unir les gens socialement puis qui nous permettent d'avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Il y a quelque chose de spirituel, pas de religieux, là, mais quelque chose de spirituel quelque part dans cette capacité-là qu'on a d'être ensemble et de vibrer à l'unisson. Puis l'art est un très bon vecteur de ça. Mais personnellement aussi, des gens... Comme je vous dis, je connais plein de gens qui écrivent de la poésie, et pour eux, l'art est vraiment une source de bien-être et d'apaisement, je dirais.
OK. L'art, ce que j'entends, c'est pas juste de le pratiquer soi-même, de faire de la musique, de chanter ou de peinturer, c'est vraiment aussi d'assister à...
Exactement. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de l'entrevue que j'avais donnée à laquelle tu faisais référence, c'est-à-dire que du point de vue du spectateur, c'est pas pour rien qu'on va au théâtre, qu'on va au cinéma, qu'on va voir des spectacles, ça fait aussi beaucoup de... L'art contribue, c'est un peu comme ça que je l'explique souvent, c'est-à-dire que lorsqu'on observe, par exemple, une pièce de théâtre, notre cerveau a la capacité de vivre l'émotion qui est transmise sur scène. Hein. En neurosciences, ils appellent ça les neurones miroirs, c'est-à-dire que lorsqu'on voit une action, notre cerveau réagit comme si c'est nous qui la faisions. Et ça nous permet aussi des fois de débloquer certaines émotions auxquelles on a moins accès dans la vie de tous les jours pour un paquet de raisons. Vous asseyez dans une salle de théâtre et quand c'est triste, ben vous allez parfois verser une larme. Quand c'est drôle, vous allez rire. Quand un personnage est en colère, vous allez ressentir l'état de tension quand il y a de l'injustice. Donc, ça nous permet d'avoir accès des fois à une autre gamme d'émotions qu'on n'arrive pas à solliciter si facilement que ça en s'assoyant et en se disant « Bon, ben là, il faudrait bien que je sois en contact avec mes émotions. » On y arrive en méditant, tu sais, puis oui. Mais des fois, il y a des mécanismes comme, je trouve, l'art est un bel exemple de ça. Et le hockey aussi, comme on disait tout à l'heure, parce que quand votre équipe préférée marque un but, tout le monde se lève, tout le monde est en extase en même temps. Tu sais.
Donc, c'est spontané, ça donne un beau feeling à l'intérieur. Ben,
tout à fait. Au final, ça nous fait vivre une vague d'émotions, une gamme, c'est-à-dire d'émotions qui ne sont pas toujours si agréables que ça, des états de tension, des états de... Mais ça nous permet de mettre du mouvement dans les émotions. Je pense que quand les gens souffrent, c'est quand les choses deviennent rigides, quand les choses se fixent, on a une façon de penser, on est toujours dans les mêmes émotions. Généralement, c'est stress, colère. On n'a plus accès au reste de la gamme de nos émotions, de nos pensées. Et l'art, le sport, bref, des choses comme ça nous permettent d'avoir accès à l'éventail de nos émotions qui nous permettent aussi de venir relativiser, de voir les choses d'une autre façon, de se confronter aussi des fois à d'autres points de vue. Les pièces de théâtre en sont un bel exemple aussi. Donc, oui, je pense que c'est rempli de... C'est une très bonne source de bonheur au final et de bien-être, je dirais, plutôt de bien-être.
Avant de changer de sujet, une dernière question sur la pandémie, peut-être. Comme psychologue, tu as dû constater... les effets secondaires de la pandémie, le stress, l'anxiété et tout ça, dans ta pratique aussi, j'imagine.
Tout à fait. Le plus gros facteur, je trouve, qui a contribué, c'est l'isolement. L'isolement, entre autres, des gens qui vivent seuls. Ça, c'est notable. Les gens qui vivent seuls ont, pendant un an de temps, perdu tous leurs lieux de socialisation. Excuse-moi. Et ils ont perdu aussi accès à toute possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, du moins en proximité. Donc, il y a une espèce de privation sensorielle quand tu es constamment seul et que tu n'étais pas habitué à
les
ça.
Les gros câlins.
Les gros câlins, exactement. On sait que la privation sensorielle, ça génère des difficultés. C'est ça. Puis, au final, d'être isolé comme ça, ben, ça fait que le sport que tu faisais au gym, tu le fais plus. Les activités sociales ou autres qui te faisaient du bien, tu y vas plus. Le théâtre, tu y vas plus. Donc, tous ces facteurs de protection-là sont baissés. Les facteurs de risques comme l'isolement sont augmentés. Fait que ça c'est clair là, que pour beaucoup de gens, ça va avoir été difficile. Puis honnêtement, je pense qu'on va mesurer les effets psychologiques de la COVID et de la pandémie. À long terme, c'est pas quelque chose... Si on est capable d'avoir des données quasiment en temps réel sur le nombre de nouveaux cas qu'on a mesurés au Québec, l'indice de santé mentale, je pense, va être plus difficile à mesurer. Puis on va pouvoir le constater probablement avec le temps. Mais c'était très difficile pour beaucoup de personnes.
Oui, parce qu'il n'y a pas de vaccin. Il y a un vaccin contre le COVID, mais il n'y a pas de vaccin contre la déprime puis toutes les répercussions psychologiques.
Exactement. Et paradoxalement, ces gens-là qui ont été isolés très longtemps déploraient beaucoup le fait d'être isolés. Puis c'est drôle, certains me disaient récemment, là, on déconfine. Puis ils se rendent compte qu'en même temps, la COVID a eu le dos large. C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça à cause de la COVID. Je ne peux pas faire ça à cause de la COVID, à cause qu'on est confiné. Là, on n'est plus confiné. Puis je ne sais pas si je veux faire ça finalement. Je ne sais pas s'il y avait peut-être d'autres raisons pour lesquelles je ne le faisais pas. C'est assez confondant finalement tout ça. Là.
Je suis plutôt d'accord, oui. C'est vrai que la COVID a eu le dos large dans mon corps, en tout cas, et que ça m'a amené à repenser bien des choses. Oui. Là, Stéphane, je vais t'amener tout à fait dans une autre direction qui est en fait une de tes spécialités que tu fais, c'est que tu travailles avec des avatars. Ça, quand j'ai parlé de ça à mes ados, ils ont trouvé ça « wow ». je vais te laisser l'expliquer. Je pense que ça va être mieux expliqué par toi que par moi.
Il y a un effet wow à ça parce qu'il y a un côté jeu vidéo. Donc, je comprends que les adolescents, un avatar, tu sais, c'est quand même c'est cool. En fait, je participe comme psychologue à un projet de recherche qui a été développé par Dr. Potvin, Dr. Dumais, au Centre de recherche là, à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, il y a quelques années de ça, qui s'est d'abord adressé, puis c'est le volet dans lequel je travaille, aux hallucinations auditives. Donc, là, si les gens sont moins familiers avec ça, il y a certaines pathologies en santé mentale, des pathologies originairement plus graves de l'ordre de la schizophrénie ou des psychoses apparentées, où est-ce que des personnes vont entendre des voix. Donc, entendre des voix, là, c'est pas la voix que vous entendez quand je vous parle, c'est entendre des voix, évidemment, quand il y a personne autour de vous. Plusieurs personnes s'adaptent à ça. Il y a des traitements pharmacologiques qui donnent quand même de bons résultats et plusieurs personnes vont bien fonctionner en entendant des voix. Donc, il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui, à la base, empêche nécessairement les gens d'avoir une belle qualité de vie. Par contre, pour certaines personnes, les voix prennent beaucoup de place, prennent beaucoup de leur capacité d'attention. Souvent, les voix sont plutôt désagréables. Parfois, elles sont agréables, mais imaginez là, que vous entendez la voix de quelqu'un qui vous dénigre constamment, qui vous menace constamment, ça peut devenir difficile de s'adapter à ça. Donc, le projet de recherche, puisqu'il faut explorer de nouvelles avenues thérapeutiques, a misé en fait sur la capacité de recréer un avatar qui représente visuellement la personne ou l'entité que la personne qui entend des voix, donc attribue ses voix à cette personne-là. Alors, la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on rencontre la personne, je pourrais appeler le patient pour que les gens le situent bien, qu'on discute avec donc son historique des voix, on essaie de voir en ce moment comment les voix se manifestent. Et de façon générale, on choisit la voix la plus dérangeante et ensemble, on va créer avec la personne une représentation 3D le plus fidèle possible. C'est pas aussi parfait que certains jeux vidéo que les adolescents jouent, ou qui ont un niveau de définition qui est très, très réaliste, mais quand même, c'est suffisamment réaliste pour créer une activation émotionnelle. Et la thérapie va comme suit. Donc, on rencontre la personne nous amène le verbatim de ses voix, et comme thérapeute, on parle à travers l'avatar, pour faire illustrer le tout, et la personne a un casque de réalité virtuelle et va interagir avec l'avatar. Puis c'est très intéressant de voir comment est-ce que les personnes réagissent à cette thérapie-là parce que la plupart du temps, ils n'ont pas une représentation visuelle si claire que ça des voix qu'ils entendent. Ils n'ont pas la chance d'interagir et de moduler si facilement non plus l'interaction avec souvent ce qui est leur persécuteur dans bien des cas. Et la thérapie permet justement d'abord de s'exposer. Donc, quand on rencontre son avatar qu'on a créé puis qui se met à nous dire des choses méchantes qu'on entend, ça crée quand même beaucoup d'émotions. Donc, d'apprendre justement, à force de s'exposer à ce qui nous fait peur, on finit par réguler la peur. Et après ça, ben d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer la relation avec l'avatar. Donc, qui, la plupart du temps, hein, si on parle de voix, mais imaginez n'importe quelle pensée ou situation que vous n'aimez pas, on tombe des stratégies facilement de lutte ou d'évitement. On essaie de prendre le contrôle sur la pensée qu'on n'aime pas, d'éviter ce qu'on n'aime pas. Plus on fait ça, plus on renforce. Plus vous essayez de prendre du contrôle sur quelque chose, peu importe la manière, plus vous allez l'augmenter. Et les gens, légitimement, c'est ce qui arrive souvent avec les voix, c'est qu'ils essaient soit d'éviter. Donc, ça fait du bien à court terme. Tu mets des bouchons, tu mets de la musique, puis pendant un petit moment, sauf que tu peux pas passer ta vie des bouchons et de la musique. Puis, ou des fois, ils essaient de contrôler, tu sais, là, tu vas arrêter ci, t'es un ci, non, c'est pas vrai, nanana, puis ils tombent dans une... Et ce qu'on voit évoluer chez plusieurs personnes dans la thérapie avatar, c'est qu'il y a une forme d'acceptation. Quand je dis acceptation, c'est pas de résignation, c'est-à-dire d'acceptation que les voix sont là, c'est-à-dire que tu peux pas empêcher ou contrôler spontanément la survenue des voix, mais que t'es pas obligé de croire tout ce qu'ils disent, que tu n'es pas condamné de définir à partir de ce que les voix te disent, et que tu peux t'affirmer face aux voix, sincèrement chercher dans une position de contrôle, c'est-à-dire, OK, la voix est là, mais ceci, je suis d'accord, ça, je suis pas d'accord, puis de commencer tranquillement à dire, ben même si j'entends des voix, je vais conclure là-dessus parce que je fais une longue réponse à ta question, même si j'entends des voix, je peux faire plein de choses dans ma vie, et l'effet secondaire, on dirait, c'est que les voix finissent par tomber plus en sourdine, dans bien des cas, pas chez tout le monde, Mais jusqu'à présent, les résultats, là, j'ai pas de chiffres, c'est moins mon domaine, c'est plus celui des chercheurs avec qui je travaille, mais les résultats sont encourageants. Et en tout cas, subjectivement, en clinique, ce qu'on observe, c'est que les gens apprécient beaucoup ça. Puis c'est aussi un moment privilégié pour eux. Ils disent tout le temps, j'ai jamais eu la chance de parler de mes voix de cette façon-là, puis d'avoir quelqu'un qui rentre à l'intérieur de ma relation avec les voix. Donc, on est un peu privilégié d'une certaine façon. La technologie nous permet d'entrer en relation avec la voix. Et c'est précisément ce qu'on essaie de faire en thérapie, c'est de modifier la relation que la personne entretient avec les voix.
Est-ce qu'on parle d'une thérapie de longue durée?
Pour l'instant, le projet de recherche, là, la thérapie est seulement, mais c'est 9 rencontres d'immersion, dont une où est-ce qu'on conçoit l'avatar. Et peut-être qu'éventuellement, on va voir ce qu'il y a matière à faire des rappels plus tard, etc. Mais là où est rendue la recherche, c'est 9 rencontres. Et je vous dis, étonnamment, là, j'ai vu des patients progresser en 9 rencontres que j'aurais jamais été capable de faire progresser si ça n'avait pas été de l'avatar comme tel. Juste dans une thérapie, mettons, cognitivo-comportementale à laquelle on est habitué, qui a fait l'épreuve de la recherche, qui a des bons résultats, j'aurais jamais réussi à aller jusque-là avec eux. Parce que là, rendu dans le monde virtuel, là, on dirait que les barrières tombent. C'est comme si on n'est plus capable de filtrer l'information ou d'analyser la situation. On n'est pas dans ces filtres-là. Là, on est dedans. Fait qu'on réagit à ce qui se passe. Puis là, on est aux premières loges comme thérapeute à ce moment-là. Là. On est vraiment avec la personne. Et si jamais vous posiez la question en entendant ça, mais est-ce que les gens jouent le jeu? Les gens là embarquent full pin, OK? C'est-à-dire qu'ils sont dans l'avatar et l'activation émotionnelle est telle qu'ils parlent avec comme si c'était la réalité de la personne qui leur parle.
On sort de l'ombre un peu.
Ah, clairement. Donc, évidemment, ils font ça tout en sachant que ben c'est le thérapeute qui parle à travers l'avatar. Mais c'est vraiment fascinant comme c'est au-delà d'un gadget technologique. Des fois, les gens peuvent dire « Ah, tu sais, on utilise la technologie. » Ouais, ben des fois, ça nous permet, la technologie, de faire des choses qu'on pourrait pas nécessairement faire autrement.
Oui, j'ai vu la vidéo, d'ailleurs, la capsule vidéo de l'avatar, la thérapie par l'avatar, et j'ai été surprise parce qu'on se sentait là. Fait que, tu sais, c'est très concret. Il y a le patient d'un côté, puis il y a toi de l'autre côté qui incarne la voix que l'autre entend avec le son déformé.
Oui, c'est ça. On essaie aussi d'aller chercher au niveau de la voix un thème qui va se ressembler. Évidemment, ça a ses limites, là, surtout quand les personnages sont féminins. J'essaie autant que possible de moduler ma voix. J'essaie de sortir mes capacités d'imitation, là, mais ça a ses limites aussi. Mais au final, le rendu est suffisant pour que la personne y croit. Évidemment, il faut être motivé à se prêter au jeu, mais le rendu est quand même très bien.
Ouais, ben c'est une façon d'apprivoiser notre part d'ombre, j'imagine.
Exactement. Puis de briser aussi, là aussi, une forme d'isolement, parce que les gens qui entendent des voix sont les seuls à entendre ces voix-là. Et on a comme accès à un espace d'intimité, je dirais, auquel peu de gens ont accès. Donc, c'est pour ça que l'établissement du lien de confiance dans toute thérapie est importante, mais à ce niveau-là. Et c'est aussi l'avantage. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec les gens avec une problématique psychotique. Donc, ça m'est pas étranger, là, ça m'est plutôt familier. Ce qui fait qu'on arrive, je pense, à créer un lien dans ce temps-là qui, c'est où est-ce qu'on sait ce qu'on s'en va, là. Donc, c'est rassurant pour eux autres, là, de voir, OK, il a l'air à comprendre les questions qu'on pose, fit avec leur réalité subjective, là. Mais ça donne accès vraiment à une intimité de la relation qu'ils ont avec les voix qu'on n'a pas autrement.
C'est un lien privilégié comme thérapeute.
Oui, tout à fait.
Ces voix-là, je suis curieuse, c'est qui ces voix-là? C'est une mère, un père, quelqu'un qui est mort, le bon Dieu?
Ça peut prendre toutes sortes de formes. Les gens qui entendent des voix, d'abord, faut comprendre, souvent la personne n'attribue pas ça à une maladie, faut comprendre. Puis on n'aborde pas ça sous cet angle-là non plus. On aborde ça sur l'angle de l'expérience qu'ils en ont, c'est-à-dire j'entends la voix de. Certaines personnes vont dire ok, c'est mon cerveau qui crée ça, mais la plupart du temps là, les gens ont une bonne, en partie, un niveau de conviction à l'effet que c'est mon père, ma mère, mon frère, mon voisin, quelqu'un que j'ai rencontré il y a 5 ans au Costa Rica. Ça peut être une entité, ange et démon, ça peut prendre vraiment, vraiment beaucoup de formes. Souvent, c'est des personnes qui connaissent ou des gens, plusieurs personnes qui vont rapporter, qui entendent, par exemple, une discussion, comme s'il y avait plusieurs personnes qui discutaient ensemble au sujet d'eux-mêmes. Tu sais. Mais ça prend vraiment toutes sortes de formes. C'est pas toujours des personnages mythologiques, humanoïdes, tu sais, comme on pourrait imaginer. Vraiment, la plupart du temps, c'est plutôt des personnages humains, donc c'est-à-dire des hommes, des femmes qui entendent. Alors, ça prend différentes formes. Souvent, ça a un lien quand même avec l'histoire de la personne. Hein, je veux dire, même si ça paraît étrange d'entendre des voix, les gens n'entendent pas n'importe quoi pour autant. C'est-à-dire que souvent, on finit par traduire ça au fil de la thérapie comme étant une part d'eux. Mettons que vous avez vos propres craintes, vous avez vos propres doutes sur vous-même, vous allez avoir des pensées des fois qui vous remettent en question, etc. Leur cerveau a la faculté de les entendre. C'est-à-dire que au lieu de penser « je suis pas bon, je suis un bon rien, il pourrait m'arriver du mal », ben eux, ils entendent ça. Et certaines personnes arrivent au fil de la thérapie à faire le lien, de dire « OK, c'est comme mon alter ego » apeuré. C'est comme la partie de moi qui a peur, qui me dit des choses qui m'effraient. Ou la partie de moi qui a du désir, parce qu'il y a aussi des voix qui sont très agréables, des gens qui sont très attachés à leur voix, qui viennent combler une grande part de leur vie, des fois affective, des fois amoureuse. Donc, certaines personnes ont peine à se départir de leur voix, tout en sachant que ça les empêche souvent de s'ancrer dans la réalité. En tout cas, c'est quelque chose quand même, c'est tout un univers, le monde de la psychose. Puis j'en profite en même temps, tu sais, pour ceux qui pourraient entendre notre conversation, pour démystifier aussi ça. C'est-à-dire que des gens peuvent entendre des voix et très bien fonctionner. Hein. C'est pas une condamnation, ça rend pas les gens dangereux. Dans certains cas où est-ce que là la maladie est très invasive, où est-ce que les voix te menacent de faire des choses, te forcent à faire des choses, ça peut arriver, mais c'est l'exception qui confirme la règle, parce qu'en général, ces gens-là fonctionnent très bien et peuvent avoir un très bel apport dans la société aussi. Donc, c'est important, tu sais, pour moi aussi de rappeler que entendre des voix ou avoir une psychose, c'est pas ni dangereux pour les autres, ni une condamnation à ne pas pouvoir fonctionner par avoir une belle vie.
C'est pas de la folie.
Ben, c'est ça, la notion de folie, d'être fou, c'est pas ça, hein, la maladie mentale. On s'entend à des phases aiguës d'un trouble psychotique, on a besoin d'aide. Là, on fait plus la part des choses, notre jugement est altéré et on a besoin d'un coup de main pour... Et là, la médication a fait une révolution dans la psychiatrie. Je veux dire, pour ces personnes-là, avant, on n'avait rien. Et on faisait à peu près n'importe quoi, mais les gens ne savaient pas quoi faire. De nos jours, au moins, ça permet justement d'amener un filet de sécurité pour que la personne puisse ensuite se mettre en marche. Mais non, c'est pas la folie au sens qu'on la voit dans les films. Les gens ont une connaissance souvent des troubles psychotiques à travers ce qu'ils ont vu dans des personnages diaboliques dans certains films. C'est pas ça du tout. Hein. C'est absolument pas ça.
Est-ce que les gens, les patients, entendent une voix ou c'est souvent plusieurs voix?
Ils peuvent entendre une voix. La plupart du temps, ils en entendent plus qu'une. Il y a des voix plus dominantes que d'autres. Des fois, il y a des voix qui sont de pair avec d'autres. Des fois, il y a des leaders à travers le groupe de voix. Des fois, il y a des voix gentilles qui viennent compenser. Donc, il y a souvent cette dualité-là entre ceux qui sont de mon bord, ceux qui sont contre moi. Puis, il y en a que c'est vraiment une voix qu'ils entendent depuis des années. Toujours la même voix, ou presque. Ça prend vraiment beaucoup de forme. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand on fait une thérapie avatar, on prend vraiment le temps avec la personne de comprendre quel est son rapport aux voix, son expérience à elle des voix, parce qu'on peut pas appliquer un protocole unique à tout le monde, parce que vraiment, c'est vraiment une expérience singulière à chaque fois.
Les patients qui arrivent pour cette thérapie avatar-là, c'est des patients que tu suis déjà ou c'est
non.
Des...
Non, OK. Donc, pour l'instant, ce sont des patients qui sont référés au programme de recherche qui est associé donc avec le CIUS de l'Île de Montréal, donc l'Institut universitaire en santé mentale, puis le Centre de recherche de l'Institut. Donc, c'est des gens qui viennent un peu partout. Hein. Il y en a qui viennent de la Montérégie, de la Naudière, de la Mauricie, de Montréal, évidemment. Et non, c'est au contraire même. On s'assure que ce n'est pas des patients que je suis. C'est des patients que je vais voir que dans le cadre de la thérapie parce que, comme c'est un projet de recherche, on prend des mesures avant, des mesures après. Donc, on ne voudrait pas influer sur tout ça. Donc, c'est vraiment des personnes qui viennent pour la thérapie, qui sont la plupart du temps suivies ailleurs par des équipes cliniques, par contre, là, psychiatres, infirmières, travailleurs sociaux, etc.
Des voix, j'ai l'impression qu'on en entend tous, en ce que moi, j'en ai une voix. C'est quoi la démarcation qui fait qu'à un moment donné, on devient une psychose?
La petite voix qu'on a tous à l'intérieur de nous, c'est pas de ça dont je parle. Ça, c'est notre petite voix. Ça, c'est notre discours intérieur. On est tout à fait capable de faire la part des choses. Notre discours interne, on sait que c'est nous qui nous parlons à nous-mêmes. S'il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça, même si des fois, on fusionne tellement avec notre discours interne qu'on a l'impression de parler avec quelqu'un comme si l'autre personne était là. Là, c'est parce qu'on est juste en train de fusionner avec nos pensées. Les gens qui ont des hallucinations auditives entendent vraiment une voix qui est attribuée à quelqu'un d'extérieur, qui peuvent entendre dans leurs oreilles, exactement comme je parle en ce moment, vous entendez ma voix, ils l'entendent comme ça. Parfois, ils l'entendent, ils décrivent ça comme étant plus une voix interne, c'est-à-dire qu'ils l'entendent dans leur tête, mais c'est clairement associé à une voix qui vient de l'extérieur. Alors, la différence se fait, bon, à un moment donné, pour les personnes qui entendent des voix, ça devient difficile de démarquer peut-être leur discours intérieur des voix, parce que parfois, le contenu peut se ressembler, mais c'est clair qu'il y a une démarcation. Donc, rassurez-vous, si vous parlez intérieurement, vous n'entendez pas de voix. C'est pas ça, entendre des voix. Entendre des voix, c'est vraiment subir quelque chose qui est entendu, comme je dis, dans les oreilles, dans la tête, mais qui vient vraiment, attribuer une source extérieure qu'on contrôle pas. C'est-à-dire, vos pensées, quand vous réfléchissez, vous parlez, mettons, à votre chum, à votre blonde, dans votre tête, là, puis c'est vous qui contrôlez ce qui se passe. Là, les voix, ils s'imposent. C'est intrusif. C'est pas vous qui contrôlez ce que les voix vont dire. Vous les subissez.
Est-ce que la science, la psychiatrie ou la psychologie a réussi à expliquer d'où viennent ces voix-là? Comment on les explique au niveau du cerveau?
Il y a plusieurs théories au niveau des neurotransmetteurs, de la dopamine, etc. Ce qui n'est pas mon grand champ de spécialité. Donc là, il faudrait parler à un psychiatre ou à un spécialiste en neurosciences pour donner le détail, mais on a quand même de bonnes explications au niveau des neurotransmetteurs, qu'est-ce qui occasionne ça. Puis les médicaments qui sont prescrits par les médecins vont agir sur ces neurotransmetteurs-là, avec quand même des effets bénéfiques, mais aussi des effets secondaires. Puis là, un psychiatre pourrait bien vous expliquer ça, mais pour en connaître plusieurs, pour en avoir côtoyé plusieurs, on voit bien comment est-ce que c'est toujours un équilibre à aller chercher entre les effets bénéfiques, les effets secondaires et l'acceptabilité. Parce que beaucoup de personnes qui ont un trouble psychotique ne pensent pas qu'ils sont malades vont souffrir.
Ah oui,
sont malades. C'est très répandu, ce qu'on appelle la nosognosie, un grand terme scientifique pour dire l'incapacité à reconnaître la maladie dans laquelle on se parle. Donc, les gens ne pensent pas qu'ils sont malades, même si, objectivement, ils vont nettement mieux quand ils prennent un traitement pharmacologique. Donc, ils ont souvent tendance à l'arrêter et c'est souvent, parfois, en ayant arrêté, en ayant eu des rechutes, en ayant vécu des difficultés, qu'à un moment donné, ils finissent par se rendre compte que ben quand ils prennent le traitement, ça va mieux dans leur vie. C'est tout un art pour les médecins d'amener la personne à accepter de prendre un traitement quand ils en ont vraiment besoin. Certaines personnes, là, on parle des troubles mentaux graves, de schizophrénie, de psychose apparentée, c'est de 1 à 3 de la population. Mais si vous savez, les gens qui ont le diabète ont de la misère à suivre leur traitement. De tous ceux qui ont un trouble, où est-ce qu'on dit, là, tu vas prendre une médication pendant des années, peut-être toute ta vie, là. Les gens abandonnent leur traitement, pas juste en psychiatrie, là, en santé physique aussi. Donc, il y a vraiment un aspect motivationnel. Pas facile d'accepter. Quand on est au niveau des troubles de santé mentale, ça touche hein, le siège de notre identité quelque part. Puis on accepte plus difficilement d'avoir besoin de ce genre de support-là. Pourtant, quand on y arrive, on peut avoir une vie tout à fait adéquate, là, tout à fait normale. On n'a pas le même jugement sur les troubles aux reins qu'on va avoir au niveau des troubles au cerveau, parce que ça reste une maladie du cerveau. Hein. C'est pas quelque chose qu'on a choisi. C'est parfois de vos parents. Quand on a une schizophrénie, une prédisposition génétique avec un environnement, des facteurs de stress qui, à un moment donné, a déclenché tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail, disons, d'acceptation puis d'autocompassion, quelque part. C'est-à-dire de dire, mais regarde, la nature humaine, on ne contrôle pas tout. La souffrance en fait partie. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant pour essayer d'être au meilleur de moi-même?
C'est vrai ce que tu dis. Encore beaucoup de tabous. Le tabou social face à la santé mentale est très grand.
Beaucoup, beaucoup. Je pense que j'ose espérer que ça a progressé, mais il en demeure pour moi que ça demeure un grand tabou. L'idée clé, mais on en parle beaucoup plus. C'est un tabou, mais je pense quand même que, tu sais, je regarde juste là, j'ai 47 ans, puis quand j'étais jeune, j'entendais pas parler de santé mentale autant qu'aujourd'hui. Beaucoup prennent la parole, beaucoup de porte-parole, de figures connues qui s'expriment publiquement. Puis ça amène des beaux côtés. Hein, des gens extrêmement créatifs qui ont des troubles bipolaires. C'est très répandu là, dans la société. Il y a des gens qui ont, bon, pour qui ça a été très difficile d'avoir le trouble bipolaire, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Bon, comme on est en phase de manie, hein, c'est comme le bonheur absolu. Là. Je veux dire, t'as une énergie folle, t'es pas venu de dormir, t'es plein d'idées. Fait que, bon, après ça, malheureusement, ça bascule du côté obscur de la force. Là. Puis là, quand on tombe en dépression, c'est autre chose. Puis des fois, en grande manie, les gens vont finir par faire des gestes, des comportements qu'ils n'auraient jamais fait autrement. Là. Mais c'est rien pour dire que les gens qui ont un trouble de santé mentale ont aussi des particularités qui font que ce sont de très belles personnes. Puis j'aime pas dire les gens qui ont un trouble de santé mentale, parce que la santé mentale, tout le monde a une santé mentale et tout le monde a un équilibre à chercher. Puis à l'échelle d'une vie, c'est... On peut tous mettre un genou à terre à un moment donné. Ça fait qu'il ne faut pas dire il y a eux, il y a nous. Il ne faut pas le voir comme ça. La santé mentale, ce n'est pas on-off, ce n'est pas eux, nous, moi, lui, correct, lui, il n'est pas. C'est vraiment un équilibre qu'on recherche tous.
Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je vais méditer là-dessus. C'est beau ce que tu dis. La souffrance, est-ce que c'est plus souffrant de maladie mentale qu'une maladie physique?
Je pense que la maladie physique nous apporte de la douleur. Et à partir de la douleur, on peut générer beaucoup de souffrance. C'est la nuance que je ferai entre la douleur et la souffrance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où est-ce que on juge le mal qu'on ressent, qu'on l'accepte pas ou très difficilement, là, on se met à souffrir vraiment, tu sais. Je pense que de façon générale, quand j'ai mal au genou, ça n'a pas le même impact sur mon estime, mon ego que si je suis en épuisement puis que je suis plus capable de travailler. Donc, il faut quand même nuancer les choses. Mais c'est ça, je pense que un des aspects, je trouve, intéressant de ces dernières années, de toutes les approches plus de méditation, de mindfulness, qui sont venues un peu influencer la psychologie dans ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales de troisième vague, c'est d'arrêter de voir la souffrance comme étant anormale. Tu sais, longtemps, quand on avait mal à quelque part, on voyait ça comme étant anormal. C'est-à-dire, si je souffre, c'est parce qu'il y a un problème. Et si j'ai pas de problème, je devrais être heureux. Ça, c'est un paradigme qui est faux en soi. Parce que la souffrance fait partie de la vie. C'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir des périodes où on souffre plus, qu'on souffre moins, tout comme c'est normal aussi d'être mieux et d'être bien. Et quand on part du principe que la souffrance est partie de la vie, on jette un regard différent sur notre souffrance. C'est-à-dire qu'on va l'accepter davantage, on va essayer, au lieu d'être en mode « je refuse de souffrir, donc là, je surinvestis ma douleur, puis j'accepte pas d'avoir mal, puis là, je fais tout », puis des fois, on finit par s'aggraver. On accepte que là, en ce moment, ben, un peu comme on faisait l'analogie du coureur, là j'ai mal au genou, je veux dire quand même que je continue à courir. Je veux dire, je vais juste m'aggraver. Donc, on ralentit, on fait ce qu'il faut pour faciliter les mécanismes de guérison naturelle du corps plutôt que de les surinvestir comme étant un ennemi à abattre, quelque chose qui est un signe comme quoi je ne vais pas, quelque chose qui est inacceptable. Donc, accepter les choses, parce que quand vous acceptez, c'est qu'elles sont là. Hein. Je veux dire, c'est quand même qu'on voudrait. Si t'as mal au genou, t'as mal au genou. C'est quand même que tu devrais te battre contre ça. Tu y arriveras juste pas. Pour faire court, oui, je pense quand même qu'on accepte plus difficilement d'avoir des pertes d'équilibre dans notre santé mentale que quand c'est au niveau de la santé physique, parce que ça vient menacer notre ego, menacer le sens de soi. Et pourtant, c'est un fardeau, l'ego, en bout de ligne. Hein. Faut se le dire. Là. Essayer de nourrir son estime, nourrir sa confiance, avoir... C'est un fardeau, là, tu sais. Fait que si on se libère de cette espèce d'exigence qu'on a, puis d'obligation d'être bien, d'être en forme, d'être heureux, d'essayer de ça, ben l'effet secondaire, c'est qu'on finit par être plus en forme, plus heureux, etc. Alors que, comme je disais tout à l'heure, quand on cherche trop à prendre du contrôle, puis on cherche trop à obtenir quelque chose, ben c'est souvent là qu'on se nuit, finalement.
Donc, à partir de la réalité.
Exactement. La réalité, elle est là. Fait que nous, on a un rapport à la réalité. On peut dire, je refuse ça, non. Ou on peut dire, ben regarde, ça, c'est la réalité. Hein, pas le fun, la réalité, là. J'aime pas ça. Là. Si vous avez déjà connu une période d'épuisement, là, tu dors plus, tu n'es plus capable de te concentrer. Hey, c'est pourtant, je faisais tout, je faisais du sport, je faisais, tu sais, c'est comment ça se fait? Il me semble que je mérite pas ça. Ben, là, un coup que tu sors de ça, c'est comme, OK, je suis là. Tu sais, je veux dire, c'est ça la réalité. Comment on peut commencer à voir comment est-ce que mon histoire m'a amené là, tu sais. Fait qu'on revient un peu à ce qu'on disait au début, hein. Je veux-tu en revenir où ce que j'étais avant, finalement? Parce que avant, c'était peut-être pas parfait non plus, là. Ça m'a quand même amené là. Puis c'est des fois un peu le cadeau en bout de ligne, qui n'est pas vécu comme un cadeau du tout, là, quand tu souffres. Mais, de dire, OK, là, je peux amener agir plus dans le sens vraiment de mes valeurs, d'être en cohérence avec ce qui fait du sens pour moi. Il y a des choses que j'accepte plus de nier dans ma vie, ça, c'est les limites que je veux plus traverser. Et c'est là où est-ce qu'on commence plutôt que d'agir contre ce qui nous fait mal, de lutter contre ce qui nous fait souffrir, bon, on se met à agir pour ce qu'on pense qui va avoir du sens pour nous. Et voilà. C'est tout un cheminement de trouver l'équilibre en santé mentale, hein. On y arrive. En fait, c'est une quête, hein. On y arrive jamais totalement. On est des éternels apprentis à ce niveau-là.
Oui, c'est à refaire à tous les jours, plusieurs fois par jour.
Tout à fait.
Pour boucler la boucle de la thérapie par avatar, combien de personnes vous avez vues jusqu'à maintenant? Puis c'est quoi l'avenir de ça? Vous en êtes où, là, présentement?
J'ai pas les chiffres exacts, mais il y a eu plus d'une centaine de patients, là, 100 quelques. J'ai pas le chiffre. On est rendu comme dans la troisième phase du projet de recherche. L'avenir, en fait, c'est que il y a une volonté à l'Institut universitaire en santé mentale, donc pour la direction, d'implanter ça en clinique. Donc, c'est pour ça que la fondation de l'Institut a débloqué du budget. On a créé une salle de réalité virtuelle à l'intérieur de l'Institut, donc à l'hôpital. Moi, je suis prêté par la direction pour contribuer au projet de recherche. Donc, c'est un partenariat entre l'équipe de recherche du centre de recherche, la fondation, puis la direction, pour continuer à avoir des données, puis tranquillement penser d'ici peut-être 2 ou 3 ans là, d'être capable d'implanter ça davantage en pratique. C'est ça le but de la recherche, là, au final, hein, c'est d'accumuler des évidences pour dire, OK, ça semble fonctionner pour telle clientèle, etc., puis qu'on puisse intégrer ça dans les pratiques. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui va pouvoir se répandre à grande échelle, parce qu'il y a quand même une technologie qui vient avec ça, qui est coûteuse. C'est plus lourd qu'une thérapie où est-ce qu'on s'assoit avec un patient et on a un schéma de référence en tête. Là, ça prend de l'appareillage, ça prend une salle. Mais c'est ça l'avenir. Il y a d'autres projets, mais je n'élaborerai pas trop sur les projets parce que mes chercheurs vont m'en vouloir. Il faut garder ça un peu mystérieux et secret, ce qui s'en vient. Okay. Mais l'objectif, ultimement, quand les gens font de la recherche, c'est d'aider le monde pour qu'éventuellement ça puisse se démontrer efficace puis l'implanter en clinique.
Et ça fait du bien. À date, les résultats...
Jusqu'à présent, c'est très prometteur. Jusqu'à présent, les résultats sont très intéressants.
Je vais finir par la question que je pose normalement au début d'entrevue. Qu'est-ce qui t'a amené à la psychologie?
C'est le fun, ça. C'est une bonne question. Puis je pense que la réponse à ça a évolué au fil du temps. Moi, je voulais devenir psychologue adolescent. Rapidement, là...
Tu le savais?
Oui, je savais. Bon, je le sais. Je me suis laissé la marge de manœuvre de dire peut-être que je pourrais aussi faire autre chose. Mais adolescent, je voulais devenir psychologue. Je m'intéressais, évidemment, comme tout psychologue va vous répondre quelque chose du genre, je m'intéressais à comprendre la nature humaine, etc. Mais avec le temps, je me suis rendu compte aussi que oui, c'est intéressant, c'est comment on fonctionne, c'est comment est-ce que... Mais c'est beaucoup aussi les relations sociales, c'est aussi apprendre beaucoup sur soi. Faut pas se leurrer l'idée de devenir psychologue, pour moi, c'était aussi de m'outiller le mieux possible pour être le mieux possible dans la vie. Puis si on peut le faire en aidant des gens, ben c'est tant mieux. Puis je pense que il y a beaucoup de toute façon de l'aspect thérapeutique est beaucoup dans le lien qu'on crée avec les gens. Nos patients nous apportent beaucoup. Hein. C'est un échange, la psychothérapie. À la base, ma mère s'intéressait à plusieurs livres de psychopop, etc. Puis s'intéressait beaucoup. Donc, je pense que c'est quand même une inspiration qui est venue de là. J'étais aussi un adolescent, un enfant du moins plutôt timide. Et c'était aussi pour moi une façon de dire, ben, je vais essayer de comprendre comment ça marche, le monde. D'un coup, ça m'aiderait. T'sais. Je suis beaucoup moins timide aujourd'hui. Pour cet aspect-là, ça,
de toute évidence.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais j'étais vraiment... J'étais anxieux socialement, mais je ne savais pas. Là, à 13-14 ans, mais a posteriori, c'est assez facile. Donc, il y avait aussi une façon de dire, ben, on va essayer de comprendre comment on fonctionne. Puis la psychologie est intéressante pour ça. C'est une façon de... Tu sais, j'ai tout le temps, la psychologie, ça n'existe pas dans les faits, c'est pas matérialisable. C'est une conceptualisation de comment est-ce que notre cerveau fonctionne. C'est d'essayer de comprendre le rapport qu'on a à soi, qu'on a aux autres. Puis en ça, c'est quelque chose qui demeure encore pour moi fascinant aujourd'hui. Puis la psychologie comme telle a évolué. Hein. Il y a eu des courants dans les années 50, 80, puis les choses évoluent. Les derniers courants me plaisent beaucoup. Moi, ce qu'on essaie plutôt d'intégrer différentes approches pour essayer de... On sait qu'on commence à bien comprendre comment fonctionne le cerveau. Il y a beaucoup de recherches qui s'est faites en psychologie ces dernières années aussi pour comprendre les mécanismes des émotions, de la peur, du stress. Tout ça est très aidant pour développer des approches thérapeutiques pour que les gens finissent par être capables justement de modifier parfois la relation qu'ils ont avec leurs pensées, de créer de l'espace justement pour faire en sorte que nos pensées viennent moins rigides. Hein. Je pense qu'au final, là, quand on est capable de flexibilité mentale, on est capable de voir les choses sous différents angles dans notre vie, dans notre entourage, ça nous permet de s'adapter. Et quand on se rend compte, ça m'arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Là. Hier, j'avais un problème de douche, etc. Puis là, je me disais, tabarn, j'ai mal dormi. Non, mais c'est ça. Il ne faut pas penser que parce qu'on a étudié en psychologie et qu'on est psychologue, qu'on est au-dessus de la mêlée. Absolument pas. Mais c'est la vie, ça. C'est... Je me disais, je suis en forme ce matin pour parler avec Eugénie. Tu sais. Ben oui, mais c'est ça. Mais je veux dire, il y a des moments où est-ce qu'on est plus fatigué, des moments où est-ce qu'on est. Puis on est capable quand même de fonctionner. Bref, pour répondre à ta question, initialement, un intérêt pour comprendre la nature humaine, mais aussi pour me mettre en confiance, pour entrer en relation aussi avec les autres.
Tu sais. À la blague, je dis souvent à mes amis et à ma famille que. Si j'étais ministre de la Santé, moi, je rendrais la psychothérapie obligatoire pour tout le monde à partir de 10 ans. Bon, j'exagère, là, mais il y a quand même un peu de... Est-ce qu'on réglerait tant de problèmes que ça si on les prenait plus tôt?
Ben, en fait, il y a des travaux qui se font là-dessus. Je sais qu'en Angleterre, en Australie, ils ont des programmes d'accès universel à la psychothérapie qui sont balisés. Hein, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement des traitements de 3 ans. Je sais qu'ici, l'Ordre des psychologues a travaillé à ça aussi. Je pense qu'on y gagnerait beaucoup, simplement parce que la plupart des gens qui ont un problème de santé mentale, puis là, je ne parle pas nécessairement d'une maladie mentale, là, je parle de troubles anxieux, d'épuisement professionnel, se ramassent dans les cabinets des médecins. On consulte, pourquoi? Parce qu'on dort mal, plus d'énergie, on a mal au ventre, on a déjà pu, etc. Ils sont déjà dans le réseau, puis souvent, ils se promènent d'une porte à l'autre, dans le système de santé. Ben, passe un scan, fais ci, fais ça. Si bien que si on était capable de référer, de mieux détecter des gens qui ont un problème de santé mentale, puis de leur donner accès à la psychothérapie, je sais qu'il y a des études qui parlent qu'on pourrait faire sauver 10% d'économie à ce moment-là. Puis, on aurait aussi une approche plus équitable. Il ne faut pas se leurrer. Si vous avez des assurances, vous avez des moyens, vous allez avoir accès à un psychologue. Quoi qu'en ce moment, il y a même des listes d'attente. Ça, c'est l'effet de la pandémie. Là, même au privé, il y a beaucoup de listes d'attente. Et si vous êtes moins bien nanti, dans le réseau public, à moins d'être en crise, ça va être long. T'sais. Puis, vous allez avoir un nombre de séances très restreint. Vous ne pourrez pas choisir votre thérapeute non plus. En tout cas, pas vraiment, même si c'est un droit. Dans les faits, quand ça fait un an et demi que tu attends et qu'on t'appelle, là, tu y vas. Hein. Fait que, ouais. C'est... Ouais. Fait que moi, je pense qu'on y gagnerait, que ce soit balisé, c'est-à-dire que ce soit pas... Mais moi, je pense qu'on y gagnerait à le faire. Puis, je pense que même financièrement, ça serait probablement viable. Il y a du monde qui tente à le démontrer. Puis il y a certainement de connecter. Puis le besoin, ça, c'est sûr qu'il est là. Je comprends que socialement, les moyens ne sont pas illimités, puis les besoins le sont souvent. Mais l'accès à la psychothérapie, on peut aller consulter un médecin pour tout. Là. Mais tu sais, quand on a un problème de santé mentale, c'est plus difficile d'avoir accès. Fait que, oui, moi, je serais tout à fait pour ça.
Oui, puis plus jeune, on arrive à se connaître, c'est le meilleur augure pour la suite.
Ben, ça, c'est vrai pour n'importe quelle problématique, quelle qu'elle soit. Si malheureusement, on attend longtemps. La réalité, c'est ça, là, c'est qu'on va consulter quand on n'est plus capable. C'est ça, la réalité.
Quand on est en crise, oui.
Sinon, on fait toute la même affaire. t'as mal dans le dos, tu mets de la glace, t'attends, oh, ça part, c'est correct, tu continues, tu reprends exactement les mêmes activités jusqu'à ce que tu barres, puis là, ça marche plus. En santé mentale, c'est la même affaire. On pousse. Parfois, par manque d'accès justement à la psychothérapie, il y a un gros recours aux antidépresseurs qui peuvent être très utiles. Mais quand c'est le seul moyen que tu as, ben souvent, tu continues à faire ce que tu faisais avant parce que ça vient de te donner un peu plus de temps devant toi. Puis quand tu plantes après, ben là, c'est encore pire. Donc, tu sais, je pense qu'il faut idéalement avoir accès à tout ça. Mais oui, n'importe quelle problématique, plus on l'apprend tôt, mieux c'est. Mais des fois, il faut se le dire, on est dur avec nous-mêmes. On encourage tout le monde autour de nous à les consulter. Mais quand c'est notre tour, des fois, on se dit, ah non, je suis capable, mais les vacances s'en viennent, ah, ça va changer. On contextualise toujours nos affaires. Puis
on les justifie, oui.
Oui, puis quelque part, l'épuisement qui se crée se fait sur des années. Tu sais, ça ne se fait pas en deux semaines. Là, un épuisement de deux semaines, tu te reposes deux jours, c'est fini. Quand tu es vraiment, là, quand au lieu d'être dans l'alternateur, tu étais sur la batterie, puis tu roules sur la batterie longtemps, là, quand elle est morte, la batterie, là, tu changes tout ton système. Fait que c'est long, mais oui, idéalement, il faudrait être capable, au moins de donner accès, dès que la personne est prête, qu'elle puisse avoir accès. Ça, c'est le bout qu'on peut contrôler socialement. Après ça, il y a de la prévention à faire, de l'éducation pour démystifier puis encourager les gens à les consulter.
Stéphane Gagnon, c'était vraiment fascinant, intéressant de discuter avec toi. Merci beaucoup. Puis je mets toutes les références de ce dont on a parlé sur mon site web.
Bon, ben merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir.